Versailles, savoir-faire et matériaux, c'est aux éditions Actes Sud, en coédition avec le Château de Versailles, sous la direction de Hugues Jacquet. Hugues Jacquet, dans ce livre Savoir-faire et matériaux, ça veut dire quoi ?
L'idée de départ était de raconter une autre histoire du Château de Versailles, une histoire un peu méconnue, donc celle qui, au travers de ses matériaux et des hommes qui vont les transformer, comprendre comment on a pu élever le Château de Versailles, comment on l'a décoré et aussi comment on l'a meublé après. L'idée était aussi de montrer des objets ou des savoir-faire qui appartiennent à ce qui était censé être vu, c'est-à-dire aux grands appartements, mais aussi des savoir-faire moins connus qui étaient réservés aux cuisines, comme par exemple une jatte à beurre en grès ou alors une petite poterie en terre vernissée qui allait servir de pot à fleurs, par exemple. Donc voilà ce grand parcours qu'essaye de proposer l'ouvrage au travers d'une sélection de 70 objets différents qui correspondent chacun à un savoir-faire spécifique. On part d'un objet précis et on décrit par là un savoir-faire.
Est-ce qu'il y a eu des originalités justement sur la création de ces objets ou l'utilisation de ces matériaux ?
On peut en noter certains. Il y avait notamment l'utilisation qui a été abandonnée mais quand même testée sur une partie de la toiture de Versailles, de la couverture, donc de plaques de cuivre, qui est un savoir-faire maîtrisé par les Suédois aussi parce qu'ils avaient accès à cette matière première. Il y a aussi l'utilisation, parmi les premières utilisations, de fontes de fer pour les canalisations en fonte qui vont servir à conduire l'eau jusqu'à l'alimentation en plomb des bassins.
Alors justement, vous parlez de l'alimentation en plomb des bassins. Je sais que les canalisations qui sont utilisées aujourd'hui sont les canalisations originales. Donc il y a eu quand même un savoir-faire et puis en même temps une volonté de pérennité dans le temps de ces matériaux et de leur utilisation.
À la preuve en est, effectivement, comme vous venez de le dire, qu'une très grande majorité des canalisations en fonte sont d'époque, donc datent du Versailles de Louis XIV. C'est très comme souvent le cas d'un transfert depuis génie militaire vers génie civil. C'était fonderies qui servaient à faire des fûts de canon qui ont permis peu à peu de développer ces pièces en fonte assez extraordinaires, dont certains pèsent plus d'une demi-tonne. Et donc c'était une très grande commande et une forme d'innovation à l'époque, bien sûr.
Quels ont été les grands architectes ou les personnalités qui ont justement fait ce développement ?
On va citer bien sûr Colbert en premier lieu, mais l'ensemble des directeurs des bâtiments du roi ont eu évidemment leur carte à jouer pour encourager, ou que ce soit l'utilisation du plomb laminé, qui est aussi une autre innovation. Et là, c'est effectivement à ce moment-là le duc d'Antin qui va demander à ce que le premier architecte puisse voir si on pouvait l'utiliser par rapport à ses qualités propres. Il va être, c'est d'abord un savoir-faire qui est expérimenté en Angleterre, mais qu'on va commencer dans la première partie du XVIIIe siècle à l'importer et à l'installer, à le maîtrisé à Paris.
Alors je suppose qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a un œil vigilant de la part du château de Versailles pour garder ces choses en l'état. Est-ce que quelquefois c'est difficile ?
Alors ça serait une question à poser, effectivement, plutôt à l'administration du château de Versailles et à son architecte en chef des monuments historiques, mais les plus grands efforts, parce que bon, étant un des joyaux du patrimoine français, sont bien sûr consacrés à la conservation de ce qui est d'époque et dans certains cas, par moment, peut-être des remplacements quand c'est nécessaire. Ça peut arriver notamment pour le parquet, que c'est aussi Versailles est victime de son succès, donc peu du parquet de Versailles, qu'on a appelé parquet Versailles bien plus tard, est d'origine, mais il en reste un petit peu quand même aussi.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans vos recherches ?
Des choses qui pouvaient paraître comme je pensais, vu qu'on voulait traiter tous les savoir-faire, que certains allaient repasser sur une approche qui allait être peut-être moins originale, mais en fait on a quasiment découvert sur l'ensemble des objets sélectionnés et les savoir-faire à montrer derrière qui ont permis leur réalisation, et bien des moments inédits, originaux, et voilà, on en retrouve quelques-uns dans cet ouvrage, dont certains qui sont encore par moments méconnus, des étapes qu'on ne maîtrise plus.
On peut donner un exemple ?
Les émaux qu'utilise Coteau pour décorer, donc là c'est dans le chapitre sur le verre, le cadran d'une pendule qui est conservé à Versailles, qui est un dépôt du Louvre. On a encore du mal à comprendre, même en se penchant dans les archives conservées à la manufacture de Sèvres, comment il a réussi à réaliser ces mots d'une telle précision. Lui-même disait qu'il avait été arrivé à un niveau d'excellence. Il cherchait un peu d'ailleurs à vendre son savoir-faire pour devenir émailleur du roi. Il n'a pas rencontré un succès complet à l'époque.
Alors ce livre est sous votre direction, Hugues Jacquet. Donc vous êtes entouré à la fois de professionnels des différents...
Bien sûr, il a été très important pour la réalisation de cet ouvrage d'avoir à la fois donc, des membres éminents de la direction scientifique du château de Versailles, donc de la conservation. Donc il y a beaucoup de conservateurs du patrimoine qui, chacun dans leur domaine de spécialité, ont écrit au sein de cet ouvrage, mais aussi il était très important d'avoir des hommes et des femmes de l'art, des artisans, des maîtres d'art, qui est doté d'une belle plume et d'une excellente connaissance très souvent. Et donc c'est, avec des archéologues aussi, c'est ce qui compose la majorité, si vous voulez, des 26 auteurs qui sont réunis au sein de cet ouvrage.
Merci beaucoup, Jacquet.
Merci à vous.